grosses têtes prédication. Quand on nous parle de la prière comme fondement de la vie de tout disciple, d'un véritable disciple du Christ, c'est qu'il n'y a pas de vie possible si le disciple ne se met pas à prier. Il ne sera pas le véritable disciple du Christ. La prière est tellement importante pour sa vie en tant que disciple. Alors, nous allons répondre à 4 questions. La première, pourquoi devons-nous prier? La deuxième, qui est notre ennemi? La troisième, quelles sont les armes nécessaires pendant ces 10 combats que nous allons mener? Et la quatrième question, pour qui devons-nous prier? Et enfin, ça sera la conclusion. Répondant à la première question, pourquoi devons-nous prier? Comme je l'ai dit tantôt, nous devons prier puisque nous sommes en perpétuel combat. Nous sommes menacés. Depuis que nous nous sommes convertis, nous ne sommes plus du cas du diable. Le diable est devenu notre ennemi juré. Et cet ennemi, depuis notre conversion jusqu'à notre mort, nous ferons ce perpétuel combat. Et comme nous avons lu dans Daniel, le fait que la personne peut aimer son Dieu, peut être fidèle, peut être intègre, c'est déjà un combat qu'il lance contre les diables. Et donc, notre vie, en tant que chrétien, quand nous vivons la piété, quand nous vivons l'intégrité, nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de défier les diables et il ne s'éteira point. Il va chercher des moyens pour nous combattre. Là où nous avons lu, on pourrait lire le verset 4 qui nous dit que on n'a pas trouvé. Je vais le lire. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce que Daniel était fidèle et qu'on n'a percevé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ces Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Le fait que Daniel a été intègre et fidèle, cela lui a attiré beaucoup d'amis dans sa société et avec les gens avec qui il travaillait. La deuxième raison qui doit nous amener à prier, qui doit nous amener à persévérer dans la prière, c'est puisque nous sommes faibles. Nous n'avons pas de force nécessaire. Nous ne sommes pas à mesure de nous défendre nous-mêmes. Et c'est pour cela que, en Éphésiens chapitre 6, le verset 10, il est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans la version que notre sœur a lue, nous devons puiser toute énergie spirituelle dans l'union avec le Seigneur et dans sa puissance, en faisant toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications avec constance et persévérance, comme Daniel lui-même l'a fait. Donc, le fait que nous sommes faibles, nous avons toujours besoin de l'appui de Dieu et c'est là que nous allons trouver notre force dans l'union avec notre Dieu, et cette union n'est possible que par la prière. Nous allons répondre à la deuxième question, qui est notre ennemi. En lisant Éphésiens chapitre 6, le verset 12 est trop clair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alors on a dit, nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas si facile. Nous sommes des hommes et naturels. Nous pouvons nous voir, nous pouvons converser, mais quand nous faisons le combat spirituel, quand nous sommes en combat, nous ne combattons pas contre les hommes que nous voyons. Nous ne combattons pas contre les humains, mais nous combattons contre les esprits qui dominent, les esprits des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre les dominations et les autorités. C'est pour cela que nous ne devons pas être... nous devons être plutôt vigilants, puisque nous ne luttons pas contre la chair, contre le sang. Et souvent nous oublions cela et nous baissons les bras, puisque nous voyons notre ennemi humain, il est déjà anéanti, il n'a plus de force, et nous nous endormons très bien. Et pourtant, le combat n'est pas humain, le combat est spirituel. Ici, quand on a manqué des causes pour accuser Daniel, on a cherché une parmi les lois de son Dieu. Et quand on dit qu'on va adorer le roi, on ne doit pas adorer n'importe quelle divinité, mais on doit adorer simplement le roi. C'est le combat entre celui qui doit être adoré et le Dieu de Daniel. Ce n'est pas le combat seulement contre Daniel, mais on est en train de combattre contre son Dieu. Alléluia. Quand on combat contre toi, parfois on ne te voit pas comme humain, mais on combat contre cette divinité que tu adores. On combat contre ta puissance spirituelle, ta force spirituelle. C'est ce qu'on est en train de combattre. Et si nous perdons de vue, ne sachant pas qu'on est en train de combattre, c'est un combat spirituel, nous risquons de voir notre ennemi physique affaibli et nous baissons les bras. Mais nous devons savoir que toujours le combat est spirituel. Et ce combat qui est au niveau spirituel, quand Daniel a attendu qu'il y a quelque chose qu'on est en train de conspirer contre lui, il n'a pas baissé les bras. Il est parti prier. Il s'est agenouillé devant son Dieu. Et c'est au verset 12. Parfois, c'est ici aussi où se joue la compromission. Le fait qu'on a seulement dit à Daniel, c'est pendant 30 jours qu'on va adorer le roi. Et si nous voyons 30 jours contre toute une année, par exemple, ce n'est qu'un mois. Alors, beaucoup de gens, pour sauver leur vie, pour sauver leur peau, ils sont prêts à se compromettre et oublier que même donner un jour au diable, c'est déjà être dans les cas du diable. 30 jours n'est pas peu pour Daniel. 30 jours, c'est grand. Et il ne veut même pas donner un seul jour. Lui, il a été ferme et il a su se défendre, même si on a dit 30 jours. Puisque, en fait, généralement, si tu donnais au diable ton petit doigt, il prendra toute ta main. Et si tu lui donnes toute ta main, il prendra tout ton corps. Donc, nous ne devons pas laisser de brèche au diable. Nous ne devons pas lui donner une petite place dans notre vie. La compromission arrive comme une chose trop, trop simple, mais elle nous envahit. Et elle nous amène loin de la volonté de Dieu. Il n'est pas question d'adorer un autre Dieu, sachant que notre Dieu est celui qui est puissant, sachant que nous sommes dans les vrais. Et la question que je devrais poser ici à tout et chacun de nous, c'est de savoir, quand nous connaissons déjà l'ampleur et l'ampleur du combat et nous connaissons la nature de notre ennemi, est-ce que lorsque nous prions, nous comprenons que nous sommes en train de combattre contre les esprits méchants? Est-ce que notre prière a du poids à faire face à ces ennemis que nous venons de citer? La prière que tu fais, cette prière de 5 minutes, de 3 minutes, est-ce qu'elle peut te donner la victoire contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants? Combien tu pèses la teneur de tes ennemis, le poids de tes ennemis, et comment tu pries? À la question 4, nous allons répondre de cette façon. Les armes nécessaires dans le dur combat qu'on vient de nous à préciser sont les suivantes. Au verset 14 et 18, on énumère les armes. La vérité qui est prise comme la ceinture, la justice qui est la cuirasse, la disponibilité pour annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile qui est comme chaussure, la foi c'est le bouclier, le salut est pris pour casque et aussi la parole de Dieu comme épée. J'aimais la version qui parle de l'armure. Tout ce que nous appelons armes dans du second, toutes ces armes sont nécessaires pour que nous soyons à mesure de combattre. Il n'est pas question de nous revêtir simplement la ceinture à un moment donné et la lever. Cette justice-là, je peux être juste jusqu'à un niveau et je peux abandonner. Il n'est pas question de pratiquer, la vérité c'est elle la ceinture, mais la justice c'est comme cuirasse. La cuirasse que nous portons n'est pas à porter à un moment et laisser pour prendre une autre arme, mais c'est l'armure au complet. Quand nous sommes au combat, nous ne devons pas laisser l'une de ces armes-là. Si nous n'avons pas de casque et que nous allons au combat, est-ce que nous sommes bien protégés? Si nous n'avons pas de ceinture, si nous n'avons pas de souliers, nous devons porter le tout ensemble. C'est l'armure au complet. Si nous réalisons toutes ces six armes que nous dit Louis Segond, c'est ça l'armure au complet. Nous devons savoir que la vérité, la justice et la disponibilité ou les ailes pour l'évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu vont toujours ensemble. Cela nous permettra d'être bien situés dans notre foi et de ne pas donner la place au diable. Est-ce que nous avons habitude de les employer ensemble? Ou bien nous portons l'une de ces armures et laisser une autre partie? Et quand nous sommes sûrs que nous nous sommes déjà bien habillés, que nous avons déjà pris tout ce qui est nécessaire, c'est alors que nous sommes rassurés. Pourquoi Daniel ne pourrait pas s'enfermer dans sa chambre et prier, puisque son Dieu est partout, il pouvait les comprendre? Pourquoi il a ouvert la porte? Pourquoi il a été assidu? Il ne s'est même pas caché. Il ne s'est même pas dissimulé pour faire semblant. C'est puisque tout simplement, Daniel était sûr de soi-même. Il savait qu'il était dans la justice. Il savait qu'il était dans le droit. et rien ne pourrait l'empêcher de continuer à confesser ce qu'il croit. Rien ne pourrait l'empêcher d'être courageux, malgré qu'il avait déjà attendu tout ce qu'on a proposé, tout ce qu'on a comploté contre lui. Parfois, nous sommes passés dans les deux jours de vacances, et parfois quand je regarde le film de nos héros nationaux, et surtout quand je vois le film de Lumumba, je le vois mourir en train de rire. Et je me pose la question, où est-ce que celui-ci a enlevé cette force-là? Il enlève sa force dans le fait qu'il est sûr que ce qu'il est en train de défendre est juste. Il ne s'est pas compromis. Il n'a pas fait de compromission avec qui que ce soit, mais il connaît qu'il est dans le droit chemin. Alléluia. C'est quand nous sommes sûrs de nous-mêmes, quand nous nous sommes déjà revêtus de toute l'armure, que nous pouvons être à mesure de défendre nos droits. Il y a de ces gens qui disent, mais il fallait quand même être un peu flexible. Oui, nous serons flexibles dans ceci ou cela et nous allons nous compromettre puisque nous n'avons pas l'armure au comblé. Nous devons bien nous vêtir de la justice, de la vérité, du courage, du zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons être sereins puisque nous savons que nous sommes dans le droit chemin. En fait, la question 4 qui nous demande pour qui nous devons prier, il est déjà clair au verset 19 et 20 que dans ce combat où nous sommes en lutte contre les puissances et les dominations, nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres saints qui sont en train de traverser ce même combat. Il y a d'autres qui ont cru au Seigneur et depuis qu'ils ont cru aussi, ils sont dans ces combats. Nous devons prier pour ceux-là qui sont dans ces mêmes combats que nous. Nous devons prier pour que le Seigneur les soutienne, pour qu'ils ne puissent pas céder, pour qu'ils ne donnent pas place au diable. Malgré les intimidations, malgré ce qui doit venir, qu'ils soient à mesure de rester fermes. En fait, j'ai aimé le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons résister dans les mauvais jours. Mais après avoir résisté, nous devons toujours rester fermes. Quand nous avons déjà tout surmonté, nous devons rester fermes. Et ce qui va nous aider à rester fermes, c'est continuer toujours à prier. Nous devons prier continuellement pour que Dieu nous donne la force, puisque notre ennemi est toujours aux aguets. Il est en train de chercher qui dévorer. Il rôde, il utilise des ruses, mais que nous soyons toujours vigilants pour ne pas lui donner place. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous résistons, il fuira loin de nous. Mais quand il est déjà fui, nous devons tenir ferme puisque nous avons déjà surmonté tout ce qu'il aurait proposé, tout ce qu'il avait contre nous. Alors, à la fin de ce message, je voudrais que nous puissions comprendre une chose aussi. Le Dieu qui a délivré Daniel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Dieu n'a pas empêché que Daniel puisse être jeté dans la fosse au lion. Mais il a été toujours du côté de Daniel. Je ne sais pas comment Daniel a passé cette nuit dans la fosse au lion. Je ne sais pas comment il réfléchissait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais c'était une nuit, c'était noir pour lui. Mais il avait déjà défendu la cause de son Dieu. Je ne peux pas adorer une personne, je ne peux pas adorer le roi. Je sais que j'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant que je dois toujours adorer. Je ne dois pas fléchir mes genoux devant qui que ce soit. Il ne s'est pas compromis, mais Dieu n'a pas arrêté que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Même dans la fosse au lion, Dieu a été avec Daniel. Et Dieu l'a relevé de la fosse au lion pour encore qu'il puisse revivre. C'est Dieu est capable. Nous sommes en train de traverser un moment difficile. Et peut-être que nous nous trouvons dans la fosse au lion. Et nous nous posons des questions. Mais Seigneur, j'ai été juste. Seigneur, je suis en train de défendre ta cause. Seigneur, tout ce qui m'arrive n'est pas juste. Mais le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Psaume que le Seigneur est toujours du côté des justes. Peut-être que dans ta famille, dans ta vie, tu es dans la fosse au lion. Mais le Seigneur a déjà envoyé l'ange, ne t'affaie pas. Les lions font peur, n'est-ce pas? Si les lions venaient ici et qu'on nous dise d'où ces lions venaient, nous tous, nous aurons tendance à fuir. Ne sachant pas si les lions ont des dents ou n'en a pas, on peut nous dire que ces lions-là étaient déjà... n'ont plus de dents. Mais nous allons fuir puisque le visage même des lions est... est très effrayant. Oui, nos ennemis que nous voyons, ce sont des lions qui n'ont plus de dents. Ils nous effraient par leur visage. Ils nous effraient par la façon dont ils se comportent, mais ils n'ont pas de dents. Le Seigneur a déjà envoyé son ange pour fermer les gueules de ces lions-là. Et le Seigneur a un jour où il va dire, quitte de la fosse, quitte de cette fosse-là, et ce sont les autres qui vont publier, qui vont annoncer que le Dieu de cet homme est vraiment le Dieu vivant. Adorons le Dieu de celui-ci. Adorons le Dieu de cette femme. Ce que je venais de dire, dans ta famille, tu es en train de passer par un moment difficile. Continue à défendre la vérité. Même si tu serais jeté dans la fosse, le Seigneur a envoyé un ange pour fermer ces gueules-là. Ne sois pas effrayé, le Seigneur est là. Le Seigneur va venir pour donner l'ordre que ceux qui t'ont mis même dans la fosse puissent encore dire, non, tu peux encore revivre. Enlevons cet homme de la fosse. On nous dit que c'est le roi qui a posé son cachet. Il a mis son sceau là-bas et tout ce qui l'entourait. Mais aussi, c'est le roi qui a ordonné qu'on enlève Daniel de la fosse. Et c'est le roi qui a publié que le Dieu de Daniel était le Dieu à adorer. Alors, c'est que ma prière pour ce jour est que le Seigneur puisse nous aider, comme il est dit au verset 24 de Daniel, c'est ce que j'aime. La parole de Dieu nous dit que le roi a ordonné que tous ceux qui ont comploté comme Daniel, contre Daniel, soient jetés dans la fosse. Eux, leurs femmes et leurs enfants. Mais pourquoi ces enfants, ces femmes-là, en souffrent? Je suis en train de demander à Dieu, lui qui est le Dieu puissant, que Tout ce qu'on a comploté contre le peuple congolais retourne contre ceux qui ont fait cela.
Amen.
Que leur complot retourne contre eux.
Amen.
Nous avons demandé à Dieu que nous ne voulons pas qu'il y ait de paix de sang encore. Nous en avons marre. Nous allons prier pour la protection de notre peuple. Nous allons prier pour que Dieu nous préserve de tout ce qui est comploté contre nous et que nos ennemis réalisent qu'il y a un Dieu vivant et Dieu qui agit et qui est toujours du côté des justes. Lèvons-nous pour la prière. Prions le Seigneur et demandons-lui sa grâce. Lui qui a délivré Daniel, qu'il nous délivre aussi. Qu'il ne permette pas que le juste soit confondu. Puisque ceux qui se confient à lui ne seront jamais confondus, ne seront jamais dans la confusion. Mais lui qui a défendu la cause de Daniel, qu'il défende la cause du peuple congolais. Demandons la grâce de Dieu pour que ceux qui complotent contre nous confessent un jour qu'il y a un Dieu au Congo, qu'il y a un Dieu que nous prions et un Dieu qui écoute. Le Dieu qui n'est pas sourd, le Dieu qui agit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous continuons à les confesser comme Dieu vivant. Que le Seigneur agisse dans l'histoire de ces pays. Que le Seigneur intervienne pour que nous puissions voir changer la donne. Et la lutte que nous sommes en train de faire, que nous continuons à la faire jusqu'à la fin de notre vie. Que nous confessions qu'il est Seigneur. Que nous confessions qu'il est le grand roi. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont en train de vivre dans cette lutte et qui sont bien tombés dans cette faute. Que le Seigneur intervienne et qu'il puisse faire grâce à tout notre peuple. Qu'il puisse défendre la cause du juste. Que Seigneur, dans notre pays, il y ait la justice qui se fait. Qu'il y ait la justice qui se fait. Je prie cela au nom de Jésus. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta fidélité, Seigneur, dans tes pays. J'ai besoin de voir ta toute puissance en train d'agir. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, j'ai besoin à ce que, Seigneur, tu puisses te révéler comme Dieu. Et que les nations proclament qu'il y a un Dieu qui a été pris. Il y a un Dieu qui a agi en faveur de ce peuple. Il y a un Dieu qui est intervenu. Oh, Dieu agit dans le peuple. Oh, Dieu agit au milieu de nous. Oh, Dieu agit même là où il y a des juridiques, là où il y a des gens qui ne se comprennent pas, confondent leurs idées, que ça tombe contre eux-mêmes et que ça retourne contre eux, qu'ils soient pris dans leur propre piège. Puisque, Seigneur, tu es au